Alors vous pouvez choisir votre camp. Voulez-vous marcher aller-retour lentement comme des zombies ou à pleine vitesse autour d'une colonne avec votre téléphone cellulaire dans les mains? Il y a deux choix. Les deux mènent vers la vacuité. Nulle part. Donc, je pense que ce serait bien que je finisse mon petit découpage d'hier, non? Ou est-ce que c'est déjà très loin, puis on, dans un sens, on s'en fout? Je vais le faire quand même. Et donc, l'exercice d'hier que j'essayais de faire, c'était de déconstruire, j'ai utilisé le phénomène de l'émotion, une émotion. Donc, c'est fait de quoi, une émotion? Mais j'aurais pu utiliser n'importe quoi, n'importe quel moment de vie peut être déconstruit dans ses aspects, différents aspects de ce qui se passe dans un moment de marche ou d'assise ou dans un moment au repas ou en étant dans la chambre, qu'il s'agisse de... une émotion forte ou non. Et donc ça, c'est une façon d'aller, de s'approcher de certains aspects de notre expérience, puis voir là, où il y a méprise, ou comment l'esprit s'agrippe, où le bas blesse dans cet aspect-là de notre expérience. Alors, je répète, hier on en a fait trois, non? Oui. Alors, oui, une émotion est présente, imaginons, la gratitude. Alors, la joie, la gratitude, tout à coup, un moment de gratitude, la joie d'être ici, la gratitude. Oui, quelque chose touche le cœur, on se sent privilégié ou chanceuse ou chanceux. Et donc là-dedans, il va y avoir peut-être, probablement, un aspect physique. Alors on va sentir quelque chose, peut-être du picotement dans les joues, une légèreté, les larmes pourraient venir aux yeux. Hein? Alors ça, c'est le monde physique là, de cette expérience d'une émotion. C'est possible que ce soit agréable. J'imagine qu'il y a des chances que ce soit agréable. Hein? Mais c'est pas certain, parce que c'est changeant. Comme la peur, par exemple, on pourrait dire, ah ben la peur, c'est agréable ou désagréable? Ça dépend. Si, je sais pas, moi, je regarde Blair Witch Project. C'est une époque sur une certaine génération. Mais un film d'horreur, par exemple, où... Alors, il y a quelque chose, je veux une certaine dose de peur parce que ça va être peut-être connu comme agréable, mais dans d'autres circonstances, alors pas du tout. Hein. Et donc, ça peut varier un peu comme ça. Mais disons que dans un moment de gratitude, il pourrait y avoir quelques sensations dans le corps que je pourrais peut-être reconnaître. Ah oui, une genre d'expansion, d'élévation dans la poitrine, ou, les larmes peut-être qui pourraient venir. Et puis, ça pourrait être... peut-être agréable. Donc, cette rivière, il y a la rivière des sensations, la rivière des expériences sensorielles qui coulent constamment. Hein. Et la rivière des tonalités. Alors là, il pourrait y avoir une montée de plaisir, peut-être, dans cette joie appréciative. Et comment les choses m'apparaissent, soudainement, pourraient être légèrement altérées. Hein. C'est incroyable, quelle chance d'être ici, alors que peut-être 20 minutes avant, ça apparaissait autrement. Hein? Et même si la si la gratitude prend beaucoup de place, puis que tout à coup je viens presque submergé de gratitude, je pourrais me mettre à pleurer intensément. Oh mon Dieu, les gens ont tellement été incroyables avec moi toute ma vie, etc. Ça pourrait devenir même désagréable. À un moment, je pourrais perdre le contrôle un peu. Mais donc, les perceptions, tout à coup, je revois un peu le fil de ma vie, ça apparaît comme ça, ou quelque chose, ça apparaît comme beau et ça a beaucoup de valeur ici, dans ce moment de gratitude. Ce qui est peut-être pas là dans le moment d'abattement. Hein, les choses peuvent apparaître différemment à un autre moment. Alors ça, c'est les perceptions. On en a déjà nommé trois. Et ensuite, dans n'importe quel moment de vie pour un être humain, et donc au milieu d'une émotion aussi, il va y avoir un autre aspect de l'expérience que j'aimerais faire ressortir juste un petit peu. Et on va appeler ça l'intention. L'intention. Alors, l'intention, c'est la façon qu'on s'engage avec quelque chose. Alors, ayant la gratitude, peut-être que ça pourrait vouloir je voudrais peut-être le silence et la présence, ou peut-être que ça va vouloir penser à quelque chose. Pour un être humain, il y a toujours une intention, il y a toujours l'intention qui est là. Peut-être pas consciente et choisie, mais il y a toujours une intention. Comme en ce moment, par exemple. Toutes ces rivières dont je parle, elles sont présentes. Par exemple, sentez-vous en vous une intention quelconque? Moi, je le vois un peu extérieurement. Ça reste une interprétation, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'intention d'entendre ou de comprendre qui est en jeu dans les psychés. Hein? Et c'est possible que quelqu'un d'autre soit ailleurs dans l'intention de régler quelque chose en retournant la maison la semaine prochaine. Hein? Mais il y a une intention. Alors, il y a toujours une intention chez un être humain. C'est un facteur commun, on pourrait dire, de chaque moment. Il y a de l'intention. La pleine conscience nous permet de devenir conscient, justement, consciente de l'intention qui nous habite. Et donc, peut-être, de choisir, de réorienter, d'encourager, de cultiver ou d'abandonner une certaine intention. Alors, il y a toujours de l'intention. L'intention, c'est ce qui se cache derrière, ce qui fait qu'un geste du corps va avoir lieu. Donc, tendre la main. Pour tendre la main, il faut qu'il y ait l'intention de tendre la main. Derrière la parole aussi, il y a l'intention. Avant de parler, il faut qu'il y ait l'intention de parler. Ou pendant qu'on parle, il faut qu'il y ait l'intention de dire des choses. Sinon, ça n'a pas lieu. On peut même l'essayer maintenant. Alors, vous voyez, si vous voulez bouger votre bras, juste comme ça. Alors, il y a les sensations, hein, puis peut-être c'est agréable ou désagréable, et on sait qu'on bouge le bras. Mais il y a aussi un élément d'intention. Le bras ne bouge pas tout seul. Si on arrête l'intention de bouger le bras, s'il n'y a plus l'intention de bouger le bras, il s'arrête. Comme dans la marche, il faut avoir l'intention de marcher. Donc, cette intention qui est toujours là chez l'être humain, il y a toujours une intention de prendre une cuillère, d'ouvrir une porte, de prêter attention, etc. C'est ce qui se cache derrière les paroles, les gestes, mais aussi la pensée. Alors, la pensée est intentionnelle. Il y a une intention. Peut-être qu'elle n'est pas choisie, encore une fois. Parce qu'on pourrait dire, ben non, moi, Pascal, je voudrais bien juste être avec la respiration, mais ça n'arrête pas de penser à plein de choses. Hein. Mais c'est mu par quelque chose. C'est pour ça qu'on questionne le « je », parce que souvent, ce n'est pas le « je » qui décide, mais c'est la peur qui pense, ou la générosité, ou l'inquiétude, ou l'angoisse, ou le désir d'être vu, ou l'avidité qui pense quelque chose. Hein. C'est mu par quelque chose. Et donc, oui, c'est quelque chose qui peut nous intéresser en retraite, le phénomène de l'intention. Puis des fois, on devient conscient de l'intention. Ah, l'intention, c'était de régler des choses du travail. Mais ce n'était pas choisi. Hein? Mais c'est ce qui était en cours, là, dans la dernière minute, peut-être, sur le coussin. Hein? L'intention de planifier quelque chose. Et là, on devient une prise de conscience. Ah oui, j'étais en train de planifier quelque chose. Ce n'était pas exactement choisi, mais c'était quand même intentionnel. Mais peut-être intentionnel habituel, hein? Peut-être quelque chose comme ça. Et donc, nous, on essaie d'amener la, la pleine conscience, c'est de prendre conscience, entre autres, des intentions, vers où ça va. Alors, je peux être assis ici, moi, dans le ressentiment, par exemple, sans l'avoir choisi. Et donc, l'intention est d'en vouloir à quelqu'un, de prouver que cette personne vraiment est horrible. Et si je ne suis pas très conscient, ça se peut aussi que l'honnêteté et les nuances prennent le bord un peu, et que tout à coup, je me mette à additionner, oui, cette personne-là a fait ça, elle a fait ça, elle a toujours été comme ça, et elle aurait pu faire ça, je lui en veux déjà, etc. Et là, peut y avoir une prise de conscience, puis on peut se dire, attends, est-ce qu'il y a autre chose qui est possible? Peut-être qu'on peut tout à coup avoir changé d'intention, et avoir l'intention de s'accompagner, parce que là, on est un peu troublé. Alors, plutôt que de continuer à cultiver ce ressentiment, peut-être juste de « Ah, Pascal, t'es troublé. » Et là, tout à coup, une nouvelle intention naît, l'intention d'accompagner ou une intention bienveillante envers soi ou peut-être l'autre. Ah, c'était dur pour l'autre aussi, cette situation-là. Probablement que l'autre aussi, là, de son côté, le cœur lui bat et est un peu confuse ou confus. Et donc, on peut réorienter. Donc, derrière les pensées, une intention. Et donc, si je reviens à l'histoire de la gratitude, puisque j'utilise cette émotion, ben, on pourrait... quelqu'un qui médite, par exemple, et qui, tout à coup, est victime d'un épisode d'intention, d'un moment de gratitude, pourrait s'intéresser à vivre cette expérience-là en conscience. Ah, tiens, c'est où? C'est où cette joie? Voyez-vous comment la réponse à l'émotion peut changer? Il y a une intention qui vient avec ça. Et donc ici, ben, on suggère cette intention-là d'être au contact. Ça a été nommé plusieurs fois. Ah, peut-être qu'on peut être au contact. Peut-être au lieu de l'intention de se débarrasser d'eux, ou l'intention de juger, ou l'intention d'analyser, on se dit, ah, tiens, peut-être qu'on pourrait avoir juste l'intention de connaître, d'éprouver simplement cette chose-là. Et donc, il y a tout un jeu d'intentions qui se passe. Si ça avait déjà lieu, je ne fais que le nommer. Mais oui, donc ça, c'est un aspect de la vie qui est toujours là. Et dans le développement de la pleine conscience, oui, on va s'intéresser au corps, oui, on va s'intéresser au souffle, mais ça va aller un petit peu plus loin. On va se dire, ah, intéressons-nous au plaisir, au déplaisir quand il se présente, pour voir quelle est la relation à ceci. Intéressons-nous aux perceptions, pour pouvoir se dégager un peu de notre façon d'adhérer, de penser que toutes nos pensées sont factuelles. Puis, devenons conscients de, ah oui, il y a apparence que ça va pas fonctionner, il y a apparence que ça va être une mauvaise journée. C'est une apparence. Voyez-vous la liberté possible là-dedans? Si c'est une mauvaise journée, ça va être une mauvaise journée. On le sait, je sais, je me suis levé du mauvais pied. Ça va être une journée horrible. Là, il n'y a pas de liberté là-dedans. Mais si je reconnais que ça apparaît comme ça, hein, ça apparaît comme que ça va mal se passer, peut-être que là, il peut rester un peu de jeu. Ah, restons attentifs. Il y a apparence, ça apparaît comme ça. Mirage, ça apparaît comme ça. Voyons voir. On garde les choses un peu ouvertes, comme ça. Et dans la pratique, vous voyez aussi avoir, à un certain moment, c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas cette semaine, mais dans la pratique du développement de la sagesse, la pleine conscience va devoir aller révéler un peu les intentions qui nous habitent pour pouvoir choisir un peu d'aller dans un sens ou dans l'autre, etc. Le Bouddha enseigne ça, c'est enfantin. Je joue un peu avec l'adjectif, mais le Bouddha enseigne ça, c'est l'enseignement presque le plus connu dans le bouddhisme, l'enseignement du Bouddha à Rahula. Alors, il parle à son enfant qui, je ne sais pas quel âge il a, peut-être 7 ans, quelque chose comme ça, je ne sais pas, mais il dit, Rahula, avant de dire quelque chose, mon amour, avant de dire quelque chose, pense à ton intention. Quelle est ton intention? Est-ce que c'est une intention qui va être bénéfique pour toi, pour les autres, pour les relations? Est-ce que ça va être aidant? Si ton intention est bonne, vas-y mon grand. Dis ce que tu as à dire. Okay. Rahula, J'ai pas fini. Pendant que tu parles, vérifie ton intention. Vérifie ton intention. Si ton intention est bonne pour le bénéfice de toi et des autres, continue de dire ce que tu as à dire. Si tu vois que non, abandonne, arrête. Après avoir parlé, Raoula, vois un peu l'intention. Quelle était l'intention? Si ton intention était bonne, dis-toi, ben, dans une situation pareille, je referais la même chose. Si ton intention était nuisible, corrige un peu, dis-toi, ah non, tiens, je ne referai pas ça, je ne redirai pas des choses comme ça. OK, tu peux aller jouer maintenant. Et donc, c'est un enseignement sur les intentions. Qu'est-ce qui me meut? Et donc, nous, on est protégés, c'est de la pleine conscience ici. Donc, il n'y a aucun jugement, jamais, sur les intentions. Il y a seulement l'élément de la conscience. La conscience. C'est comme une forme de prise de responsabilité, très belle prise de responsabilité, être conscient de ce qui nous habite. Et donc ici, à travers la marche, à travers l'assise, le point d'entrée, c'est le corps. On sent le corps assis, le corps qui marche, le corps qui respire, toutes les expériences sensorielles, le chaud, le froid, le moelleux, le rugueux. Alors, il y a toute cette texture de l'expérience. Et tranquillement, on découvre un peu, ah tiens, ça c'est agréable, ça c'est désagréable. Comment être en lien avec ceci? Et en cours de route, ben, on va découvrir un peu les intentions. Comme je disais plus tôt ce matin, là, la fois où j'ai ouvert la porte comme ça, l'intention était un peu de nuire, de surprendre. Hein, était de... Et donc, il y a toute une étude là-dedans, là, juste dans ce petit mouvement-là, de quelle sorte de plaisir je cultive. Est-ce que c'est un plaisir qui est bon pour moi et pour les autres, ou non? Puis, quelle est l'intention? Alors, si je note l'intention de cruauté, si je suis identifié aux intentions, si ça semble parler de moi, ben, ça risque d'être des mauvaises nouvelles ici et là, parce qu'une intention de cruauté, ça fait de moi une personne cruelle, c'est horrible. Mais si une intention de cruauté est seulement reconnue comme telle, elle peut être abandonnée, ça n'a pas à me définir. Je peux juste reconnaître, ah, ça c'est pas aidant. Je ne vais pas cultiver ça, je vais abandonner ça. Donc ça, c'est un autre aspect de notre expérience qui est toujours là. Donc c'est là en ce moment. En ce moment, il y a là j'ai nommé jusqu'à maintenant quatre, disons, je vais appeler ça rivière. Et ça a lieu constamment. En ce moment, ça a lieu. Il y a du physique. Est-ce que quelqu'un veut débattre de ça, s'opposer à ça? Ou vous êtes d'accord? Il y a un jeu de plaisir des plaisirs. Peut-être quelque chose est entendu, ah, ça fait rigoler, ou je fais une petite blague, puis vous la comprenez pas. Parce qu'elle est un peu obscure. Ça rigole un peu. Mais quoi, je comprends pas. Ah, ça, c'est désagréable. Alors, hop, c'est un petit moment de désagrément. Alors, il y a une fluctuation de ça, même pendant cet enseignement. Ou peut-être c'est agréable, puis à un moment, ça va être bon, là. Ça ne l'est plus, là. Tais-toi. Il y a toutes sortes de variations, puis c'est différent chez chaque personne. Mais il y a ça a lieu en ce moment. Les perceptions aussi. C'est impossible de ne pas percevoir les choses d'une certaine façon. Hein. Alors, quand vous regardez par devant, c'est impossible de juste voir des couleurs. C'est pas ça. Il y a Pascal, fenêtre. Vous entendez un son, c'est pas hélicoptère, c'est mouche. Hein. Le monde s'organise constamment. Et il y a un jeu d'intention. À un moment donné, il va avoir l'intention d'ajuster la posture ou de se gratter. Les intentions sont particulièrement importantes parce que, ben, pour plusieurs raisons, mais entre autres, en termes d'impact dans nos relations, puis l'intention présente peut amener une certaine paix, un certain bien-être, mais en plus, l'intention qui est présente est un entraînement. Alors, si j'ai une intention d'être au contact, présente, je suis en train de cultiver ceci pour le futur. Alors, il y a un impact sur le futur. Parfois, on appelle ça le karma. Alors, un geste posé avec une intention ici va avoir un impact sur une relation. Ah, peut-être que la personne va m'en vouloir. Puis là, bon, on va avoir à travailler tout un truc à cause d'une intention. Peut-être que moi, plus tard, j'aurai des regrets ou de la joie d'avoir protégé quelqu'un, un groupe, une situation, quelque chose, d'avoir pris soin. Alors, il y a une joie future qui est possible à cause d'une intention présente. Alors, ça a un gros impact. Hein. Donc, on peut dire même que ça joue sur le passé, parce qu'il y a un jour, peut-être qu'on va penser à quelque chose qu'on a fait. Puis donc, ça va être une façon de penser au passé. Dire, ah oui, c'est une très belle intention ce jour-là, à ce moment-là. Et donc, on va être protégé par nos propres intentions. Et le Bouddha dit des choses comme tout repose sur l'intention. Tout repose sur l'intention. Et donc, c'est central sur le chemin spirituel. Et ça a toujours lieu. Et souvent, on parle de ça plus tard dans une retraite, comme là, je le fais aujourd'hui. Bon, moi, je pousse un peu l'enveloppe parce que d'habitude, ce serait au jour 7 ou 8 d'une retraite. Mais là, on n'a pas 7 ou 8. Alors, moi, je me dis, bon, je me lance. Parce que c'est plus subtil, c'est un peu plus caché. C'est moins palpable qu'un pas. Ou qu'une respiration. Et donc, mais quand même, ça peut être intéressant. On ne veut pas se prendre la tête avec ça, on ne veut pas réfléchir à ça trop. C'est quelque chose qu'on veut explorer en chemin. Par exemple, sur les retraites un peu plus longues, parfois, quand on commence à parler de conscience, la pleine conscience des intentions, ça devient très rigolo de voir les gens pratiquer parce qu'on va voir. On peut voir quand quelqu'un travaille sur... Quand, je vais procéder comme ça. Si vous voyez quelqu'un devant une porte qui ne bouge pas, c'est sûr que cette personne est en train d'étudier les intentions. L'intention d'ouvrir la porte. En anglais, on dit c'est le « about to moment ». L'intention, c'est ça. C'est un facteur neutre dans l'esprit. C'est juste la capacité de l'esprit à ramasser ses forces intérieures pour produire une parole, un mouvement ou une direction pour la pensée. Et donc, ça... constamment lieu, et ça peut être étudié. Alors, des fois, dans les retraites, on voit ça. Quelqu'un qui est devant la porte de sa chambre, comme ça, on dit, ah oui, il veut sentir l'intention d'ouvrir. Ou quelqu'un qui marche, tout à coup, est arrêté. Bon, ça, on ne sait pas, mais avant, l'intention de se retourner, l'intention de faire un pas. Est-ce que je peux devenir conscient de ça? C'est plus transparent que le pas, un peu. Le pas, on le sent. Ça se lève, ça pousse. Mais l'intention de, c'est un petit peu plus subtil. Et c'est très important parce que le conflit, la résolution du conflit, tout tourne autour de ça dans notre vie, l'intention qui nous habite. Alors la liste que je suis en train de faire, savez-vous comment elle s'appelle? Je ne l'ai pas nommée parce que ça ne dit presque rien, je trouve. C'est pas sexy. Il n'y a aucun avantage à dire le nom de la liste, sauf que ça peut être important. Si plus tard on veut faire des recherches, je vais entendre plus sur cette liste-là. Ça s'appelle les 5 agrégats, cette liste. Et donc, c'est une façon de prendre un moment d'humanité, un moment d'expérience humaine, puis dire, bien, il y a ces aspects-là qui se passent, et chacun de ces aspects-là est important d'une certaine façon, et peut être investigué. On peut devenir conscient de ça. Une image, l'image qui est utilisée, vous l'avez peut-être déjà entendue. En tout cas, si vous avez passé un petit peu de temps avec moi, c'est sûr que vous l'avez entendue. L'image qui est utilisée, donc, vous allez vous souvenir, je parlais de... Pour le corps, c'était quoi l'image du Bouddha qu'il utilise? L'écume. Pour le plaisir des plaisirs, il utilise l'image de... La bulle. Est-ce que ça vient tous du même endroit avec moi? Pour les perceptions. Oh là, vous allez vous souvenir. Mirage, hein? Très bien. Et pour les intentions, là, j'ai réduit là, sa plus simple expression ce domaine-là de l'expérience. Il y a d'autres façons un peu d'en parler. Mais le Bouddha utilise l'image de... Pardon, j'ai quelque chose dans la bouche qui m'énerve. Fini, passé, éphémère, impermanent. J'avais l'intention de m'en débarrasser, j'ai réussi. Et donc, l'image que le Bouddha utilise, c'est l'image du bananier. C'est étonnant, non, comme image? Alors, voici. Alors il dit, imaginons-nous, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de la forme d'hier, imaginons une personne qui s'approche. Bon, imaginons-nous une personne qui veut, je trouve tellement poignante cette image, je la trouve forte. Imaginons-nous une personne qui veut se créer un refuge contre la pluie, le vent, les éléments, le froid, etc., qui veut se créer un refuge. Cette personne-là se dit, ah, je vais me construire un refuge. Et part dans la forêt, aux alentours, avec sa hache pour trouver le bois le plus dur, quelque chose sur quoi compter là, pour faire un refuge qui va tenir. Là. Et cette personne-là, en se promenant dans la forêt, sartienne, Sarthe, on est dans le Sarthe, c'est donc sarteuse, sartoise. Tout à coup, voit, évidemment, naturellement, à un moment donné, tombe sur un bananier. Et voyant le bananier, voit les immenses feuilles, voit les immenses fleurs ou les immenses fruits, et se dit « Oh my God » en panique. Il se dit « Wow, OK, là, il y a de la matière. Là, il va y avoir du bon bois dur. » Et avec sa hache, se met à couper le bananier pour découvrir en son centre quoi? De la fibre. Il n'y a rien de... Il y a pas de, rien de solide là-dedans. C'est de la fibre. Ça peut seulement être composté. Quand le bananier a porté ses fruits, il tombe par terre et... Voilà, il n'y a pas de bois dur, on ne peut pas compter là-dessus, non fiable. Impermanent, non stable, non fiable, non solide. Et donc, le Bouddha dit, les intentions, toutes les formations mentales, les créations de l'esprit, c'est de la même façon, on ne peut pas compter là-dessus si on cherche le cœur du « je ». Si on cherche le « je », on pourrait se dire, ah, OK, c'est pas le corps, je comprends, c'est une série de sensations. On peut m'enlever le bras, c'est encore moi. On peut m'enlever tel organe, puis peut-être je vais encore fonctionner. OK, je comprends que le corps, c'est pas moi. Je comprends que les plaisirs, des plaisirs, ça passe. Ça peut pas être moi. C'est dans la rencontre, c'est momentané. Ça apparaît, ça disparaît. OK, c'est pas moi, c'est pas je, c'est pas ce que je suis. OK. Les perceptions, OK, je comprends, ça apparaît, les choses apparaissent d'une certaine façon, c'est pas moi. Mais les intentions? Ah, les intentions. Alors là, ça, tu touches pas à ça. Ça, c'est à moi, ou c'est en moi. Et le Bouddha, là, il utilise l'image du bananier. Alors, si on cherche quelque chose pour un refuge solide, quelque chose sur quoi on peut compter, ça, c'est moi. Ça, on peut compter là-dessus. Certainement, une personne qui regarderait de plus près le bananier, au-delà des apparences, découvrirait que c'est que de la fibre. De la même façon, une personne qui va s'approcher des intentions va aller très très près, va les étudier, va les observer, va en être pleinement conscient, consciente, va faire une étude des intentions, va découvrir que c'est aussi passager qu'un moment de plaisir ou de déplaisir. L'intention de se mettre debout apparaît et passe. L'intention d'amener la fourchette à la bouche apparaît momentanément et passe. L'intention de parler, l'intention de se venger, l'intention d'accompagner, l'intention de... Quelle que soit l'intention, c'est quelque chose qui se forme dans les circonstances et disparaît. Comme par exemple, l'intention de marcher lentement aller-retour en allant nulle part. On peut admettre quand même que c'est circonstanciel, non? Ça ne nous serait jamais traversé l'esprit si on n'était pas venu à une retraite vipassana comme celle-ci. Hein? Tout à coup, on peut dire, oui, mais c'est moi qui ai cette intention. Ah oui, c'est intéressant. Est-ce que ça l'est vraiment ou c'est un peu culturel, d'une culture éphémère? Ou qu'est-ce qui fait que... Ou ça peut devenir très intéressant dans les prochains jours. Qu'est-ce qui fait que au moment de se mettre debout et d'aller vers la marche, est-ce que c'est moi qui décide où je vais marcher, ou si je vais marcher ou non. Est-ce que c'est vraiment moi? Ben, d'une certaine façon, on peut dire oui, puis fin de la conversation, c'est réglé. Non, mais c'est vrai, au niveau conventionnel, il n'y a pas de doute. Oui, c'est toi. Mais si on y regarde de plus près, ce qu'on fait, nous, là, avec notre microscope de la pleine conscience, hein, on s'approche, donc on part de oui, c'est moi qui ai les émotions, c'est moi qui ai le plaisir, c'est moi le corps, c'est moi tout ça. Puis regardons un peu de plus près. Puis on voit que les sensations passent, donc qui ne peuvent pas être possédées, que c'est un jeu d'éléments, de froid, de chaud, de mouillé, de dur, de sec, etc. Donc ça ne peut pas m'appartenir exactement. Le plaisir des plaisirs passe, la façon dont les choses sont perçues, c'est que ça apparaît d'une certaine façon. Et on risque de découvrir que les intentions aussi sont circonstancielles. Alors, peut-être que, ding, ça sonne, ah là, je suis épuisé, j'en peux plus. Et donc, c'est quoi? C'est le découragement, la fatigue, tout ça va faire que on va aller vers la chambre ou la théière. Ou, rayon de soleil, même circonstance, mais là, rayon de soleil, j'en profite. Pour une fois qu'il fait beau, je vais aller là. Et là, une fois dehors, où je vais aller marcher? À l'ombre ou au soleil? Ah, ben tiens, je vais aller marcher là. Ça paraît comme c'est moi qui décide tout ça, mais c'est très circonstanciel. Hein? C'est dépendant des conditions. Les conditions font que si on décide de marcher à l'intérieur, il y a quelque chose qui va nous... On va dire, ah, il fait trop froid, je vais aller à l'intérieur. Ouais, ça va être plus calme avec le vent. C'est un peu agitant, je vais aller à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est en jeu, là. C'est pas le libre arbitre dans ce sens-là. Hein. C'est un paquet de conditions qui font que... D'ailleurs, c'est pour ça que le soir, quand on se couche, parfois on se dit, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de jeu. Hein? Parce que ce qui a dit ça, c'était le désir d'être vu. Il y avait quelque chose qui a parlé. Hein? C'est un état mental qui a pris la parole. Faudrait que je le retrouve. Là. Mais il y a un très beau poème de Pablo Neruda qui dit quelque chose comme ça. Quand j'appelle le pompier, c'est l'incendiaire qui sort. Quand j'appelle... Il y a une série de choses... C'est comme, moi je veux tout à coup être efficace, puis là tout à coup c'est le maladroit qui apparaît. Hein. Est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience? Bon, je vais montrer toute mon intelligence, mon savoir-faire, puis ouais, non, hein, c'est pas comme ça. Il suffit d'une nuit sans sommeil, puis tout à coup notre intelligence vacille. Hein. C'est à moi, mais est-ce que c'est vraiment à moi ou c'est juste à cette sommeil? Fait que tout à coup, l'intelligence apparaît. On retire ça, ou comme je le disais hier, la bienveillance. C'est quand même instable. Et donc, l'image du bananier, c'est le Bouddha qui nous montre c'est vide en son corps. C'est ça le terme vacuité. Le terme vacuité, ça ne veut pas dire que les choses sont vides, que rien n'existe, nihilisme, etc. Vacuité dans le bouddhisme, ça veut dire qu'il n'y a pas de je essentiel au milieu de l'affaire. Que les choses sont conditionnelles. Que nous, par exemple, pour être là, il a fallu qu'il y ait la rencontre entre les parents. Il a fallu qu'il y ait... S'il n'y a pas ça, nous, on dépend du Big Bang. Pas de Big Bang, pas de retraite. Alors, ça prend des milliards de conditions pour que chacun de nous soit nous. Puis aussi, pour que la retraite ait lieu, ça prend... Il n'y a pas de retraite hein, en soi. C'est un amalgame de 100 000 choses qui sont réunies, puis tout à coup, hop, ça a lieu. Il manque une de ces choses-là, et tout à coup, tout s'effondre, ça n'a pas lieu. Il n'y a pas de retraite, ou il n'y a pas de Céline. Hein. C'est ça, c'est instable, c'est changeant, c'est éphémère, c'est conditionnel. Et donc la vacuité, ça fait pointer juste, ça pointe vers la nature conditionnelle des choses, et pas essentielle. Une image que le Bouddha utilise pour parler de ça, c'est quand la fameuse image du chariot. Alors on s'imagine un chariot avec les quatre roues, le banc, bon, je ne connais pas, essieux et autres parties. Et le Bouddha, dans son enseignement, ce soir-là, ou ce jour-là, ou cet après-midi-là, dit, pensez à un chariot ou pas? Il n'y a pas de chariot. C'est un amalgame. Il n'y a pas d'essence chariot. Si on enlève toutes les parties, on ne trouvera pas le chariot. Le chariot, c'est quelque chose qui est réuni et qui a une fonction et qui n'existe pas en soi. Me suivez-vous? Il n'y a pas Et c'est quelque chose qui est assemblé comme ça. Et nous, ben, c'est les cinq agrégats, les cinq, ces cinq aspects-là qui s'influencent un l'autre. C'est un truc qui fait comme ça, un peu comme un chariot, qui avance comme ça. Et les intentions naissent de est-ce que c'est plaisant ou déplaisant, ce qui est perçu, ce qui est, quelle sensation, etc. C'est comme ça que les intentions naissent de tous ces autres agrégats. Là, il en manque un que je n'ai pas encore nommé. Est-ce que je me lance? Ou c'est assez, ça suffit? Bon, tiens, petite parenthèse avant, ici. C'est pas moi qui le dis, c'est Christiane. Saint-Gère, on dit?
Ouais.
Alors, que dit-elle? Ouais, je voulais, ah oui, je me permets, allez, on dit. Alors, j'aime beaucoup cette phrase d'André Breton qui disait « N'écoutez que les personnes qui vous apportent des nouvelles de vous-même. Les autres sont mortellement ennuyeuses. » Je me permets de le dire parce que moi, j'ai l'impression que j'apporte des nouvelles de vous-même. C'est ce dont je parle. Les agrégats vous concernent. Et j'espère tout simplement vraiment que de la simplicité de ma présence devant vous, de l'ouverture du cœur, cela puisse rebondir de l'un à l'autre et que nous nous apportions mutuellement des nouvelles de nous-mêmes, de cette part de nos êtres où nous sommes dans la reliance. Au dehors, on est tellement différents. Et puis il y a tout ce qui est sous la croûte. Il y en a qui ont des tas d'enfants, qui ont des familles, qui ont une famille, qui rêvent d'être seuls de temps en temps. Il y en a d'autres qui sont seuls, qui rêvent de n'être plus seuls. Il y a ceux et celles qui aiment ceci, qui n'aiment pas cela, etc. Il y a une multiplicité de différences, mais vraiment une combinatoire infinie de différences. Et puis, quand on descend dans les profondeurs, il y a un moment où cela fait clic. Et puis, comme dans ce silence, subitement, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. La personne que vous avez devant vous, le cerveau qui est en train de fonctionner, c'est le cerveau de l'humanité, c'est le vôtre, c'est le mien. Vous n'allez pas croire un instant, si nous avions le temps de réfléchir vraiment, vous croiriez vraiment que quelque chose puisse m'appartenir? Vous croyez vraiment que quelque chose puisse m'appartenir? Ne plaisantons pas, c'est elle qui le dit. Tout ce corps, cet être que je suis devant vous, et qui est dans un combinatoire, agrégat, amalgame, qui est dans un combinatoire, dans une combinatoire particulière, puisque chacun de nous est merveilleusement unique, mais à la fois, en ne s'appartenant pas le moins du monde. Et l'esprit de non-possession va jusqu'à cet esprit de « il n'y a rien qui coule, rivière, il n'y a rien qui coule à travers moi qui puisse m'appartenir ». Il n'y a rien qui coule à travers moi qui puisse m'appartenir. Et c'est ça, un début d'expérience de liberté. Hey! Si je pose la question à un Québécois, es-tu bouddhiste, elle, ou pas? En tout cas, ça y ressemble. Il n'y a rien qui coule, une compréhension profonde, il n'y a rien qui coule à travers moi qui puisse m'appartenir. Et c'est ça, un début d'expérience de liberté. Christiane de Saint-Gère, le Bouddha, une équipe. Et vraiment, en regardant vos beaux visages, il n'y a pas d'effort à faire. Ce sont vraiment des nouveaux visages de mon être. Et c'est ça, ça. Quand nous touchons cela, le monde s'agrandit. Exprimé par une autre personnalité, une autre sensibilité. C'est quand même remarquable, non? Et donc, la cinquième rivière qui coule, toutes ces rivières qui coulent, qui font ceci, cela, etc. Oui, absolument unique, mais en même temps, rien qui n'appartient à personne, véritablement. Et cet cinquième aspect de l'expérience qui est en fonction en ce moment, comme les quatre autres le sont, ça a lieu en ce moment. C'est ce qu'on appelle « je », tout ça, là. Toutes ces cinq-là, c'est ce que j'appelle « je », « je me lève », c'est moi qui viens, « je vais aller marcher », etc. Ça, si on découpe ça, c'est des sensations, du plaisir, du déplaisir, qui est tout le temps en fonction, des perceptions, une façon de donner un sens au monde constamment, qui émerge, surgit constamment, un sens. Les yeux se promènent, ça crée du sens, constamment. Rien de personnel là-dedans, dans un sens. Et des intentions surgissent, émergent constamment. L'intention d'écouter, l'intention de clarifier, l'intention de prendre, l'intention d'offrir, l'intention surgit de toutes ces situations, etc. C'est un surgissement constant de ces rivières. Et la cinquième, le cinquième surgissement, c'est ce qu'on appelle la conscience. Puis là, déjà, c'est problématique parce qu'on en fait une chose. On peut voir avec l'intention que ce sont une série d'intentions, hein. L'intention de se mettre debout, l'intention de mettre son manteau, ses bottes, d'ouvrir la porte, l'intention... Toutes des intentions qui apparaissent et disparaissent les unes derrière les autres. La conscience, c'est la même chose. Ça a l'air d'une chose, c'est moi. Ah ben là, non, là, c'est tout ce qui me reste. Tu m'as tout enlevé, Pascal. Non, non, non. Le témoin, l'observateur, quand même. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu me laisses au moins ça. « No, honey pie. » Non, il faut voir pour soi-même. Mais c'est intéressant de considérer ça. C'est tellement une autre perception de la réalité, non? C'est tellement une autre façon de concevoir, de percevoir la réalité. Et le Bouddha enseigne tout ça, et il le dit constamment, à cause de la souffrance qui vient avec l'autre perception habituelle de « c'est moi, c'est à propos de moi, ça fait référence à moi, c'est en moi, c'est à moi, c'est ce que je suis. » Et donc, cet élément, disons, de conscience, c'est quelque chose aussi qui surgit constamment. La conscience du son. Bon, j'ai pas besoin de la cloche. La conscience du son. Seriez-vous d'accord avec moi? Nécessite le son? Comment peut-il y avoir conscience du son de la chouette? Oh, erreur de perception. La conscience du son nécessite le son. Tellement une autre façon de concevoir le monde, non? Alors que nous, on pense je suis ici, le son est là-bas et je reçois le son. Puis tout à coup, il y a cette invitation à aller voir de plus près. Que ce surgissement de conscience d'un son nécessite un son. Que le surgissement de la conscience d'une orteille qui se cogne nécessite l'orteille et la table. Hein? Que la conscience surgit constamment et elle est dépendante. Elle est codépendante. Elle co-naît. Elle co-naît. Elle naît avec le phénomène. La conscience de l'agacement. Nécessite l'agacement. La conscience du plaisir nécessite le plaisir. La conscience de la douleur nécessite la douleur. La conscience émerge du contact entre l'oreille et le son, et la conscience qui naît. C'est un phénomène éphémère. Avec la fin du son, meurt la conscience du son. Avec la fin de l'inspiration, meurt la conscience de l'inspiration. Avec la naissance de la pensée, naît la conscience de la pensée. Avec la fin de la pensée, meurt la conscience de la pensée. Ça peut être très, très libérateur de comprendre ça, pas à titre d'information comme c'est reçu peut-être ou émis maintenant, pas non plus en termes de réflexion, mais de vivre cette expérience-là, très libérateur. Tout à coup, cette idée-là de séparation, de durée, de qu'est-ce qui va arriver avec la mort, tout à coup, ah non, la conscience apparaît, émerge naturellement et meurt. Et Le Bouddha, l'image qu'il utilise, oh, là, il nous a réservé la meilleure. Quoique, c'est débattable, hein, ce sont de bonnes images. Surtout le bananier. Mais l'image pour la conscience qu'il utilise, c'est le spectacle de magie. Ah, c'est ce qui crée l'illusion du je, du moi, au centre de l'affaire. Alors, c'est le spectacle de magie. Et encore cette image-là, comme la bulle, le mirage, l'écume, le bananier, vers quoi ça pointe? Vers cette vacuité, vers ce... Il n'y a pas de spectacle de magie. On pense voir quelque chose qui n'existe pas. Et ce n'est pas moi là, qui ai inventé ça. Ça nous vient de... Il y a des milliers d'années, là. Et c'est un secret de Polichinelle. C'est-à-dire que c'est caché seulement par notre attention superficielle. Si on y regarde de très près, on va voir que c'est un spectacle de marionnettes, qui n'est pas vraiment un individu de cette façon-là qui est là. Que la conscience émerge quand les conditions sont réunies, puis que très naturellement, quand les conditions ne sont plus là, le son disparaît, le souffle disparaît. Qu'il n'y a plus la conscience là, mais elle va être à quelque part d'autre. Et nous, on a la chance incroyable, incroyable, d'avoir quelques jours pour aller voir ça. Alors qu'on pense constamment à je, on doit s'occuper de je, nourrir je ceci, prévoir pour je. Là, ici, on a la chance d'arrêter de penser à je, puis d'aller voir, d'aller à sa rencontre, de voir si on peut le trouver. En tout cas, il y a des gens, je n'aimerais pas qui, B, O, U, etc., qui sont allés voir et ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont trouvé, oui, de la conscience, oui, du plaisir, du déplaisir, oui, des intentions qui naissent et meurent, oui, des sensations, oui, du sens qui est créé au contact de des expériences sensorielles. Trouver tout ça, mais rien au cœur de ça. Que de l'écume, des bulles, des mirages, spectacles de magie et un tronc de bananier. Et on peut voir, nous, dans quoi, si je retourne vers l'image du bananier, j'aime particulièrement à cause de la recherche du refuge. Et donc, moi, je suis assis ici. Et là, tout à coup, je pars dans une production de bananes. Ouais, en rentrant, je vais faire ça. Ou je vais avoir cette conversation. Tiens, je te le dis, je ne te l'ai jamais dit, je vais te le dire, etc. Puis tout à coup, oups, la cloche sonne, quelqu'un tousse, heureusement. Puis tout à coup, me dérange dans mes pensées. Et là, oups, vide. C'était vide. C'était une illusion, c'était une fabrication mentale, c'était une fiction. Mais j'avais adhéré à ça. C'est ça la méprise. Donc nous, on a la chance ici de prêter attention et de voir toutes les productions. L'autre mot pour intention, pour cet agrégat ou cette rivière, c'est les fabrications mentales. Alors, toute cette fabrication d'émotions. Je pense, c'est moi l'émotion. C'est à moi qu'elle arrive, l'émotion. Hein? C'est toujours comme ça un peu. Et donc, ouais, j'imagine que ça va être bien là, qu'il y ait toute une vie de recherche. Hein? Parce que ça ne va pas être facile, mais c'est possible. C'est ça qui est incroyable. C'est possible. C'est absolument possible d'aller clarifier ça. Juste à temps pour pouvoir mourir en paix. D'ailleurs, en termes d'appropriation, j'aime beaucoup, je vais peut-être, Christiane, est-ce que c'est OK si je t'emprunte la non-possession? Je trouve que c'est un beau terme, je n'avais jamais... la non-possession. Ça va être une très belle traduction de anatta en pali, ce qu'on traduit souvent par non-soi, qui est un peu angoissant quand même, le non-soi. Les choses ne sont pas à moi, ne sont pas moi. La non-possession, parce que c'est ça l'activité, de posséder, de s'approprier. Cette petite erreur là, d'appropriation. Le Bouddha parle de seulement de 4 façons de s'approprier les choses ou de s'identifier. Il n'y en a pas plus que ça. C'est pas plus subtil, complexe que ça. Il dit, soit on perçoit quelque chose comme étant à moi, parce que ça vous est déjà arrivé, à moi, ma maison, mon vélo, mon partenaire. Alors, mon, que c'est. Soit j'ai l'impression, la perception, je conçois les choses comme ça, que quelque chose est à moi. Perception erronée, que quelque chose est à moi. Ou que c'est moi. C'est soit à moi ou c'est moi. Soit c'est mon corps ou c'est moi. C'est moi. Essayez avec n'importe quoi, c'est très rigolo comme jeu. Alors, est-ce que ce sont mes pensées ou je suis ces pensées? Est-ce que c'est je suis l'observateur ou c'est à moi l'observateur? C'est mon observateur. Alors, c'est soit quelque chose est à moi, m'apparaît comme ça, soit quelque chose m'apparaît comme étant à moi, carrément moi, en moi, ou je suis dedans. À moins que ça ait changé depuis 2600 ans, mais en tout cas, au moment où le Bouddha enseignait ça, il a dit il y a juste 4 visions erronées possibles autour de l'appropriation. Les émotions sont en moi, Pascal. Elles sont en moi, les émotions. Les pensées sont en moi. Ou, non, je suis dans mon corps. Je ne suis pas le corps. OK, d'accord. Mais je suis dedans. Je suis derrière les yeux. Je réside ici, derrière les yeux. C'est là où je... Mais je me rappelle, je sais, des fois, j'allais chez le dentiste, je me disais, oh, il s'approche. Puis une fois, j'ai eu une opération aux yeux, je suis allé, il avait presque rendu dedans. Là, c'est très personnel, tout à coup. Je me dis, ah oui, mon sens de jeu réside un peu derrière les yeux. Donc, c'est une façon de concevoir le monde, d'aborder le monde. Et ben, ça peut venir avec des inconvénients, avec des dangers. Danger de l'isolement, le danger de la haine de soi, le danger de l'arrogance, le danger de la peur de la mort, le danger de... Il y a des avantages, il y a une jouissance. C'est à moi. J'adore. Là, j'ai payé avec mon argent. C'est à moi. Alors, le Bouddha parle de ça. Il dit, pourquoi je continue dans cette voie-là? Pourquoi je continuais dans cette voie-là? Parce qu'il y avait une jouissance. Il y avait une jouissance à ça. Et tant que je n'avais pas vu les dangers de ça, la souffrance, les désavantages, le côté défectueux de cette façon d'aborder le monde, je ne pouvais pas trouver la libération. Ça s'appelle la jouissance, les dangers et la libération. Il dit, quand j'étais commencé à être conscient des dangers, des avantages, de la souffrance qui vient avec ça, la libération était possible. S'il n'y avait pas jouissance, je ne m'attacherais pas aux choses comme ça. Je n'aurais pas ce mouvement de possessivité, d'identification. Je ne m'identifierais pas parce qu'il y a une certaine jouissance à ça que je m'identifie. Mais parce qu'il y a des dangers et que je peux me rendre compte de ces dangers-là, c'est possible de me libérer de cette tendance à s'approprier, s'identifier, se définir par. Et le lien entre la vacuité et l'équanimité, ben, c'est qu'il est direct. Il est vraiment direct. On dit l'équanimité, la paix intérieure, l'équilibre intérieur, la paix profonde, l'équilibre profond intérieur, c'est directement relié à la compréhension que les choses sont impermanentes et ne m'appartiennent pas. Une compréhension profonde de ça donne une équanimité parfaite. Parce que je sais que les choses... Donc, pourquoi ça finit? Ben non, parce que je sais profondément que les choses apparaissent et meurent. Et que c'est pas à moi, que je peux pas posséder quelque chose, même s'il y a cette impression, cette illusion que non, je peux pas posséder l'autre, ou que les émotions vont et viennent, je pourrais pas arrêter le bien-être, ou, etc. Que l'accablement très libérateur de savoir qu'il y a accablement. Mais c'est pas à moi, c'est pas moi, c'est pas, ça me définit pas. Il y a beaucoup de peur. Ça, c'est le processus très naturel de la méditation avec la pratique sur quelques années, je pense. Que tranquillement, ça, on n'en parlerait pas, je pense que ça aurait lieu de soi. Alors, on est assis. Au début, les gens viennent, quand ils commencent la méditation, ils vont dire « ma respiration, il faut que j'améliore ma respiration ». Puis après un moment, ça tombe, ça. C'est la respiration. Voyez-vous ce que je veux dire? Tout à coup, c'est un peu moins personnel, le corps respire, oui. Puis à un moment, ça vient comme ça avec les émotions. Ah, il y a beaucoup d'angoisse aujourd'hui, ou il y a des regrets. Mais c'est pas, on n'est pas collé, on n'est pas fusionné, on n'est pas identifié à la chose. Ah, il y a de la confusion. Je suis confus, il faut que je clarifie les choses. Je suis confus. Puis à un moment, on se dit, voici, il y a un passage de confusion. On est moins identifié. C'est là, mais il n'y a pas cette identification. Donc, libération. Libération, ça ne veut pas dire que ça n'a pas lieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'identification. Le Bouddha dit, par exemple, puis tiens, je vais essayer de finir avec ça, ça ne serait pas pire. Le Bouddha dit quelque chose comme libérer la promesse de la pratique. Libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Libérer de la maladie, c'est ça la promesse de la pratique. Libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Pourtant, il va y avoir la maladie, la vieillesse, la mort. Il va y avoir. Alors comment est-ce qu'on peut se libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort? Il va falloir comprendre les choses, percevoir les choses légèrement différemment. Que ce n'est pas à propos de moi. Que ce n'est pas, cette vision-là est un peu faussée, erronée, et crée la peur, le stress. Mogaraja, Mogaraja, demande au Bouddha, comment puis-je éviter le regard du spectre de la mort? Alors, et vous le posez la question comme ça, vous? Au Bouddha, comment éviter le regard du spectre de la mort? Et le Bouddha de répondre, Mogaraja, ne t'approprie quoi que ce soit, ne t'approprie pas quoi que ce soit. Ne t'identifie à rien, Mogaraja. De cette façon, tu éviteras. Il commence par sois toujours attentif, Mogaraja. Sois très attentif, Mogaraja. Et ne t'approprie rien. De cette façon, tu éviteras le regard du spectre de la mort. On va rendre ça dramatique. En anglais, on dit, je ne sais pas si c'est traduit, je ne connais pas le terme en pali, mais on parle de « sure heart release », alors la libération, l'ouverture du cœur. Alors, ce dont on parle là, c'est directement relié à l'accès à la joie, directement relié à l'accès à une compassion infinie pour les êtres et nos méprises. Qu'on voit vers tout ce vers quoi ça mène, cette appropriation, tous ces conflits, toute cette peur, toutes ces attaques, toute cette avidité, toute cette haine. Alors, c'est l'ouverture vers une compassion infinie, vers un équilibre, équanimité, vers la joie, vers la bienveillance. C'est le chemin, c'est ça. Prenons juste un petit moment là, pour laisser les mots se dissiper. Je me souviens d'une fois où Gil Fransdahl, un enseignant que j'aime beaucoup, Gil a dit « C'est pas vous qui allez être libéré. C'est tout le reste. Toutes ces rivières qui vont être libérées de la possessivité, de l'appropriation, de la méprise. » Tous les êtres puissent se libérer de cette tendance à s'approprier un petit peu pour trouver un peu de liberté, ou beaucoup pour trouver beaucoup de liberté, ou complètement pour trouver une complète liberté. Ok, merci, merci beaucoup pour votre considération. Maintenant, c'est l'heure du repas et que personne prenne ma place.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.